Bonjour à tous. Donc, nous allons reprendre le déroulement de cette conférence internationale. Donc, pour ceux que je n'ai pas vus encore ce matin, bienvenue à vous tous et merci encore une fois de plus au Musée de Quai Branly pour la qualité de ses installations et de son accueil. Donc, je vais appeler Céline Bon pour la première conférence de cet après-midi. Donc, c'est une conférence. Le titre est en anglais, mais la conférence est en français. Et elle va nous parler des vieux microbes. Et Céline travaille au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Donc, vous verrez demain avec Herbert Machner quelques présentations sur la numérisation des collections. Voilà, ainsi qu'Anaïs Augias. Je ne sais pas si elle est là.
Non, elle n'est pas présente aujourd'hui.
Elle n'est pas présente, donc c'est pas grave. Je pense que Céline va la représenter dignement. Merci d'être parmi nous.
Je vous avais envoyé ma présentation.
On va l'envoyer. Normalement, tout fonctionne.
Super.
Et vous avez le décompte du temps devant le retour écran devant vous.
Très bien, merci.
Merci
beaucoup.
Céline.
Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de venir assister à cette présentation. Donc, moi, je ne vais pas parler de corps virtuel. Je vais parler de corps vraiment matériel et même des bactéries et des microbes qui vivent en symbiose avec notre corps. Donc, c'est une présentation de deux projets de recherche qui tournent autour de cette problématique de comment reconstituer les interactions entre nous, les humains, parce que finalement, on est assez égocentrique, on est le sujet qui nous intéresse le plus, et les bactéries, les microbes, les micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous et de voir ce que cela peut nous apprendre ou pourrait nous apprendre dans le futur sur ces interactions. Donc c'est une présentation qui a été préparée en collaboration avec Anaïs Augias, qui est actuellement en post-doctorat au département d'anthropologie au Canada, dans un département d'anthropologie au Canada. Pour passer les diapos... Merci beaucoup. L'idée de cette présentation, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que nous étions juste humains, que notre corps était juste humain. Et puis en fait, depuis Pasteur, on s'est rendu compte qu'on avait des interactions avec un certain nombre de microbes. Et depuis 15-20 ans, on voit se développer les études de ces interactions et de ces collaborations entre notre organisme Homo sapiens à nous et des centaines, des milliers, voire des millions d'autres organismes. Donc en fait, on n'est pas seulement un être vivant, mais on est également un écosystème, voire même une succession d'écosystèmes. On n'a pas les mêmes bactéries qui vivent avec nous, selon que ce soit au sein de nos cavités nasales, dans les différentes parties de nos oreilles, sur la peau, dans notre tube digestif ou dans notre vagin pour les femmes. Donc on a en fait cette succession d'écosystèmes et les composants, les autres espèces qui vont vivre à l'intérieur de cet écosystème sont corrélés à un certain nombre d'aspects. Le premier aspect, c'est notre patrimoine génétique. Suivant certains variants génétiques que nous allons posséder, en particulier dans des gènes qui codent pour le système immunitaire, certaines bactéries vont être favorisées et d'autres vont être défavorisées. Mais il y a d'autres impacts, d'autres événements qui impactent également notre microbiome et ses interactions avec nos bactéries, en particulier la manière dont nous vivons. Selon ce que nous allons manger, nous allons favoriser certaines bactéries et en défavoriser d'autres. Une alimentation riche en féculents et en glucides ne va pas être bénéfique pour les mêmes bactéries qu'une alimentation pauvre en glucides mais riche en fibres. Et évidemment, les médicaments que nous prenons ont un impact très fort sur ces bactéries. Puisque typiquement, vous l'avez déjà tous testé, je pense, si on prend des antibiotiques, on perçoit après des désordres intestinaux. Ces désordres intestinaux, ils sont liés au fait que les antibiotiques que nous avons pris ont certes tué les bactéries pathogènes, et c'est tant mieux, mais ont également impacté les bactéries gentilles, les bactéries avec lesquelles nous vivions en symbiose dans notre tube digestif, et qu'il va falloir un certain temps pour que la flore microbienne se remette en place. Et puis, un autre aspect qui va avoir un impact très important, c'est le degré d'hygiène dans lequel nous vivons. Alors, parfois, on peut même penser que trop d'hygiène peut être particulièrement néfaste à ces écosystèmes, puisque les écosystèmes bactériens vont s'appauvrir quand l'environnement dans lequel nous vivons est trop propre. Et on a lié ça au développement d'un certain nombre d'allergies, par exemple, dans les périodes les plus récentes dans les sociétés occidentales. Et donc, ça semble assez évident dans tout ce que je viens de dire, mais effectivement, le microbiome et la bonne santé de notre microbiome est liée à nous, notre bonne santé en tant qu'être vivant, puisque un déséquilibre dans un de ces écosystèmes va conduire à énormément de maladies. Typiquement, un déséquilibre dans la flore vaginale va conduire chez certaines femmes à des candidoses. Un déséquilibre dans la flore du tube digestif peut conduire à de l'obésité, ou dans la flore buccale à des caries, puisque les caries sont liées au développement de certaines bactéries cariogènes qui ne sont plus contrôlées par les autres bactéries, ou dans la flore de la peau à des maladies de type eczéma. Donc on voit que la bonne santé de ces différents écosystèmes est intrinsèquement liée à notre bonne santé à nous. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément nous en tant qu'êtres humains qui vivons actuellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reconstituer le mode de vie, l'état de santé d'individus qui vivaient il y a des milliers d'années. Et donc, une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à ce microbiome dans des fossiles, dans des squelettes d'individus qui sont morts depuis des milliers d'années. Alors déjà, donc, l'intérêt serait ainsi de pouvoir comprendre les relations avec les modes de vie anciens, avec la santé ancienne. Déjà, il faut les retrouver. Et en fait, parfois, on a beaucoup de chance. Parfois, on tombe sur des momies sur lesquelles les tissus mous sont préservés. Là, je vous ai présenté l'exemple d'Otzi, cette momie de la fin du néolithique qui a été trouvée dans un glacier à la frontière entre les Alpes italiennes et autrichiennes. Et effectivement, pour Otzi, la peau était conservée, le tube digestif était conservé, etc., etc. Donc, des chercheurs ont pu faire des études de son microbiome, retrouver les bactéries dans son estomac, dans son tube digestif, dans ses poumons, et ainsi reconstituer certaines des maladies qu'il aurait pu porter ou qui auraient pu être causées par ce microbiome. Mais c'est extrêmement rare de tomber sur des cas comme celui-là. Et plus souvent, en archéologie, on va tomber ou sur les ossements ou sur les restes d'habitat des anciens humains. Donc, on va parfois tomber, voilà, par exemple, des latrines romaines. On va parfois tomber sur des fonds de latrines. Et cette étude sera la première partie de mon exposé, ce que je vais vous présenter. Parfois, on peut tomber sur des excréments fossilisés, comme ces coprolites ici, sur lesquels on peut penser que le microbiome intestinal s'est également fossilisé. Mais généralement, les seuls restes qui nous restent de ces humains anciens, ce sont des os. C'est un squelette, comme ce crâne présenté ici. Mais là aussi, on va parfois avoir accès à du microbiome, alors à un microbiome bien particulier, un microbiome qui est celui du tartre dentaire, que certains individus avaient en quantité très importante, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, et qui a pu fossiliser l'intérieur, le microbiome qui était présent à l'intérieur de la bouche et autour de la gencive dans le passé. Et ça sera le deuxième projet que je vais vous présenter. Donc, comment on étudie ce microbiome ? Classiquement, pendant très longtemps, on a étudié le microbiome en prenant un peu du tissu qui nous intéressait, des échantillons qui nous intéressaient, en essayant de faire pousser les bactéries sur des boîtes de pétri. Alors là, on se heurte à deux problèmes. Le premier problème, c'est que la plupart des bactéries ne poussent pas dans ces conditions. Ce n'est pas des conditions idéales pour elles. Donc, on va avoir un aperçu de seulement une partie des bactéries de ce milieu complexe. Typiquement, pour le tube digestif, il a été montré que 10% seulement des bactéries du tube digestif humain pouvaient pousser sur boîte de pétri, et qu'on était donc passé à côté de l'immense diversité microbienne qu'on pouvait trouver dans le tube digestif. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est que là, on va s'intéresser à des bactéries anciennes, donc des bactéries qui sont mortes, et si elles sont mortes, eh bien, il n'y a aucune chance pour qu'elles se mettent à pousser sur des boîtes de pétri. Donc on va passer à un autre aspect, moi qui m'arrange parce que je suis généticienne, on va séquencer le matériel génétique qu'on trouve à l'intérieur de ces milieux, et on va essayer d'en déterminer quelles étaient les bactéries présentes. Pour ça, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de s'intéresser à une partie du génome qui est présente dans le génome de toutes les bactéries, mais qui est variable. C'est un petit peu comme le code-barre qu'on peut trouver au supermarché. Tous les produits vont porter un code-barre, mais tous les produits vont porter un code-barre différent. Et en montrant à la caissière le code-barre du produit que vous êtes en train d'acheter, elle est capable de reconnaître directement le produit. Et ben, on a un code-barre, nous aussi, en ADN microbien. C'est le gène 16S, qui est présent chez toutes les bactéries et différent selon les espèces bactériennes. Donc on va pouvoir s'intéresser à séquencer ce gène dans des milieux complexes et ensuite récupérer toutes les séquences et essayer de différencier celles qui appartiennent à différentes bactéries. L'autre approche va être une approche plus globale, où on va là s'intéresser, on va prendre un extrait d'ADN, à partir par exemple d'excréments anciens typiquement, et on va séquencer tout ce qui est à l'intérieur. Et une fois qu'on a toutes les séquences, on va essayer d'en tirer des informations. Suivant les différentes espèces vont avoir des séquences génétiques différentes, donc on va pouvoir reconstituer le contenu en espèces. Mais on va également pouvoir s'intéresser au contenu en gènes. Quels sont les types de gènes qui sont présents dans ce milieu? Par exemple, est-ce qu'on a des gènes de résistance à des antibiotiques? Est-ce qu'on a des gènes de dépollution quand on s'intéresse au métagénome, au microbiome du sol, etc., etc. On ne va pas forcément faire le lien entre tel gène de résistance et telle espèce bactérienne, mais on va savoir que dans le passé, on avait déjà des gènes de résistance aux antibiotiques ou qu'ils étaient absents. Donc le premier projet que je vais vous proposer, c'est un projet qui porte sur l'analyse métagénomique de latrine et pour lequel on a utilisé ce code barre qu'est l'ADN 16S. Donc c'est un projet qui a porté sur différents sites archéologiques qui viennent du nord-est de la France, qui vont du château de Marly, de Chambly, qui date du Moyen-Âge, jusqu'à des tranchées de la Première Guerre mondiale ou des latrines d'un camp de prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs, nous avons même rajouté des latrines modernes, actuelles, pour avoir une idée de ce qu'on pouvait retrouver dans des latrines sans avoir le passage du temps depuis. Donc nous avons des latrines qui viennent d'une communauté en Beauce. Donc nous avons décidé d'analyser ces échantillons. Le problème en ADN ancien, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ADN ancien parce qu'on pourrait y passer des heures, mais l'un des problèmes que nous avons en ADN ancien, c'est que l'ADN est très dégradé et donc il est présent en très faible quantité. Donc nous avons choisi pour les échantillons les plus anciens de les extraire, de les analyser dans un laboratoire, dans une pièce qui était dédiée à l'analyse d'ADN ancien et qui avait peu de risques d'être contaminée par de l'ADN moderne. Donc il fallait mettre une limite, on a mis la limite à 100 ans, c'est-à-dire que les échantillons de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ont été traités dans un laboratoire moderne, normal, et les échantillons des sites de Chambly et de Marly ont été traités dans une salle blanche avec toutes les précautions habituelles pour éviter les contaminations. Pour les traiter, nous avons utilisé un protocole d'extraction d'ADN classique du sol. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bactéries qui ont un mur autour d'elles pour les protéger et que si on veut récupérer l'ADN, la première phase est de casser ce mur pour récupérer l'ADN qui est à l'intérieur. Donc on a débuté par une phase de lyse en quelques mots, enfin très rapidement. Ensuite on a extrait l'ADN puis on l'a purifié. Sur cet ADN purifié, on a cherché les codes barres, on a cherché le gène du 16S, qu'on l'a amplifié. On l'a séquencé et ensuite on est revenu sur ces séquences pour assigner chacune de ces séquences à une espèce bactérienne particulière. Et ensuite on a comparé le contenu en espèce bactérienne suivant les différents échantillons que nous avons. Il faut savoir, j'ai oublié de vous le préciser, mais pour les différents sites archéologiques, nous avons différentes couches aussi qui parfois peuvent être temporellement différentes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, c'est une représentation sous forme de MDS où les échantillons qui ont des contenus en gènes similaires vont être plus proches les uns des autres et les contenus en bactéries similaires vont être plus proches les uns des autres et les échantillons qui ont des contenus en bactéries très différents vont être éloignés sur cette représentation. Comme vous pouvez le voir, ça forme une espèce d'étoile à trois branches avec une branche qui est jaune et noire, donc qui est composée des échantillons actuels et des échantillons de la Deuxième Guerre mondiale, une branche plutôt verte qui va être composée des échantillons de la Première Guerre mondiale et une branche bleu foncé et bleu clair qui va être composée des échantillons qui datent du Moyen-Âge et de l'époque classique. Ce qu'on observe aussi, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à part pour les sites de Marly et de Chambly, les échantillons sont plutôt groupés, c'est-à-dire que sur un même site, on va avoir grosso modo les mêmes bactéries qui vont être présentes dans les différentes couches archéologiques qui ont été étudiées. Et donc cette représentation montre quand même qu'on a une différenciation entre des échantillons qui ont l'air plutôt modernes et des échantillons qui ont l'air plutôt anciens. À partir de là, on a deux possibilités. Une première possibilité très excitante qui est de dire qu'on a eu un changement drastique de mode de vie entre la période ancienne, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, et la période moderne représentée par la Deuxième Guerre mondiale et les échantillons actuels, et qui aurait pu changer drastiquement la composition du microbiome fécal. Alors, typiquement, quand on pense à ce genre de changement drastique dans le mode de vie, on peut penser aux vaccins, on peut penser aux antibiotiques qui auraient pu se produire, et par ailleurs à une meilleure hygiène, même si j'imagine que l'hygiène dans un camp de prisonniers allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale ne devait pas être la priorité. L'autre hypothèse, qui est un peu moins excitante, c'est de dire qu'on se retrouve face à un phénomène bien connu en ADN ancien, qui est la dégradation de l'ADN. Et qu'effectivement, les échantillons les plus récents montrent de l'ADN microbien conservé, alors que dans les échantillons plus anciens, cet ADN microbien du tube digestif a été dégradé au cours du temps et qu'il a été remplacé par de l'ADN environnemental, qui n'est pas celui qui nous intéresse. Alors, une autre manière de tester ça, c'est qu'on a regardé le contenu en deux grands clades de bactéries, que sont les Firmicutes et les Bacteroidetes. Ces deux grands clades de bactéries sont les bactéries majeures représentées dans le microbiome fécal et le microbiome du tube digestif chez tous les mammifères. Donc, changement d'alimentation ou pas changement d'alimentation, on s'attend à ce que ces Firmicutes et ces Bacteroidetes soient largement représentées dans les jeux de données. Et ce qu'on observe, c'est effectivement, donc vous avez les barres représentent le pourcentage de Bacteroidetes et de Firmicutes retrouvés à l'intérieur de nos échantillons. Et vous voyez que ces pourcentages sont élevés uniquement pour les deux échantillons de latrine moderne et pour les échantillons qui datent de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, c'est extrêmement faible pour les échantillons qui sont plus anciens, dans lesquels on trouve en revanche beaucoup de protéobactéries, qui sont des bactéries qui sont très représentées dans le microbiome du sol, dans le microbiome des sédiments. Donc il semble là qu'effectivement, la réelle cause de cette différence entre les échantillons les plus modernes et les échantillons anciens soit la dégradation de l'ADN bactérien des bactéries du tube digestif et qu'il ait été remplacé par de l'ADN des bactéries qu'on retrouve dans le sol. Donc on se retrouve face à une dégradation de l'ADN. Alors effectivement, il semble que l'approche par du gène 16S, l'approche par barcode en ADN ancien, soit pas pertinent pour l'ADN ancien. En effet, il faut qu'on séquence à peu près 150 lettres du génome de la bactérie, au moins 150 lettres du génome de la bactérie, pour avoir le code barre en entier. Or, souvent, en ADN ancien, l'ADN est dégradé sur des fragments qui sont beaucoup plus petits. Donc, c'est un peu, on a des mélanges comme celui que j'ai représenté là, entre des séquences d'ADN très longues pour l'ADN environnemental représenté en vert et des séquences d'ADN très courtes pour l'ADN du tube digestif représenté en brun. Et donc, en fait, on n'a pas le code barre en entier. Si vous faites l'expérience à la caisse du supermarché de vous présenter avec un produit dont le code barre n'est pas en entier, la caissière ou le caissier ne pourra pas retrouver de quel produit il s'agit. Donc là, c'est exactement le problème qui s'est posé. C'est qu'on avait sans doute de l'ADN fécal à l'intérieur, mais on n'a pas réussi à obtenir le code barre en entier, le gène 16S en entier, donc on n'a pas réussi à l'identifier. Donc, il semble que ces approches par 16S ne soient pas adéquates pour l'ADN ancien, qu'il faille passer par des approches de type métagénomique. On va séquencer tout l'ADN de l'échantillon. Donc c'est actuellement en cours pour les latrines, et effectivement, pour certains sites, on se rend compte qu'on arrive à retrouver du signal de type microbiome digestif à l'intérieur. Mais je ne vous présente pas les résultats, parce que les résultats sont beaucoup trop préliminaires pour le moment. Mais on a fait cette expérience, en revanche, sur un autre type de matériel, qui est le tartre dentaire fossilisé sur des squelettes. Donc on va retrouver fossilisé, donc là vous avez un individu avec une belle quantité de tartre sur une molaire, on va retrouver dans ce tartre principalement de l'ADN des bactéries de la bouche, mais également des restes alimentaires parfois, et également de l'ADN humain, puisque dans la bouche, dans la salive, on a des cellules humaines qui proviennent de l'intérieur de la joue. Donc, cette fois-ci, on quitte le bassin parisien, on va dans une région du monde un peu plus éloignée, qui est le sud de l'Asie centrale, donc un site qui s'appelle Ouloukdépé, qui est situé au Turkménistan, à la frontière avec l'Iran. Et ce site est intéressant pour les archéologues parce qu'il a connu une occupation extrêmement longue qui va de la fin du Chalcolithique jusqu'à l'âge du fer, en fait jusqu'à la période où cette région faisait partie de l'empire achéménide perse. Mais les deux principales occupations datent de l'âge du bronze et de l'âge du fer, donc de la civilisation de l'Oxus pour l'âge du bronze et des cultures Yaz pour l'âge du fer. Et donc nous, on est intéressés sur ce qui s'est passé donc, justement à cette transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et en voyant qu'on avait des échantillons qui avaient du tartre dentaire, on s'est demandé si on n'allait pas pouvoir le séquencer et regarder si on retrouvait quelles étaient les bactéries en symbiose avec les êtres humains de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Donc on a quatre individus différents, et pour un individu, on a deux dents différentes, une dent sur laquelle on avait une énorme quantité de tartre et une dent sur laquelle on avait une quantité de tartre extrêmement faible. Je vous avoue que pour moi, j'ai même considéré que ça servait un petit peu de témoin négatif, parce que j'étais vraiment pas convaincue qu'on ait du tartre sur cet échantillon. Le protocole a été sensiblement pareil, sauf que là, comme on ne travaillait pas sur du sol, on travaillait sur un objet, on a pu nettoyer la surface, à la fois chimiquement et en le passant aux UV, donc les UV détruisent l'ADN, en espérant détruire l'ADN environnemental qui pouvait être présent à la surface. On a suivi un protocole d'extraction typique pour l'ADN ancien, on a ensuite préparé cet ADN pour le séquençage. Là, cette fois-ci, on ne ciblait pas le gène 16S, on prenait absolument tout ce qu'on avait comme ADN à l'intérieur. Et on a séquencé, alors, pour les 5 individus, on avait 550 millions de séquences d'ADN, donc à peu près 100-120 millions par individu. Reste ensuite à pouvoir dire chacune de ces séquences d'ADN, à pouvoir retrouver l'espèce à laquelle elle appartenait. Donc pour ça, il existe des protocoles d'études qui sont pratiqués couramment en métagénomique, qui permettent à l'intérieur d'un mélange complexe de différencier ce qui provient de telle ou de telle bactérie. Le problème qu'on avait ici, c'est que ces protocoles d'études, ces programmes informatiques, n'ont pas été écrits pour traiter de l'ADN ancien. Donc le stagiaire de M2 que j'avais à l'époque a voulu comparer les différents programmes pour assigner des espèces à partir de ces séquences, voir comment ça fonctionnait sur une communauté bactérienne fictive qu'il avait créée de façon bioinformatique pour qu'elle ressemble à de l'ADN ancien, donc avec de l'ADN dégradé, avec de l'ADN endommagé, de plus courte taille, etc., etc. On a regardé deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce que ces programmes sont on savait qu'elles étaient des espèces bactériennes à l'intérieur, puisque c'est nous qui l'avions créé. Donc le premier aspect, c'est est-ce que ces programmes sont capables de retrouver les espèces réellement présentes dans le mélange. Et le deuxième aspect, c'est est-ce que ces programmes ne nous retrouvent pas les espèces qui sont absentes du mélange. Donc le premier, c'est la sensibilité. Le deuxième, c'est la précision des programmes. Donc on a fait ça, on a testé différentes méthodes. Est-ce qu'on utilise juste les lectures telles quelles? Est-ce qu'on essaye de rassembler ensemble les lectures qui se ressemblent pour avoir des fragments d'ADN plus longs? Si on fait ça, on a une meilleure précision. Donc, je sais pas si ça... ouais. Une meilleure précision ici. Donc là, c'est une précision de 1. Une mauvaise précision, c'est par ici. Et la sensibilité, c'est la capacité de retrouver donc, les espèces présentes dans le mélange. Et comme vous pouvez voir ici, on a bien quelques programmes qui ne sont pas trop mauvais en termes de précision et plutôt bons en termes de précision et pas trop mauvais en termes de sensibilité. Donc on a décidé d'utiliser ces quatre programmes, et puis comme nous, ce qui nous importe plutôt, c'est la précision, on s'est dit qu'on allait prendre en compte uniquement les espèces qui avaient été retrouvées indépendamment par deux programmes différents. Donc on a appliqué ça sur nos échantillons de tartre ancien. On a retrouvé toute une série d'espèces bactériennes qui sont listées ici, et ici sont listées l'abondance pour chacun des échantillons présents ici. Donc en bleu, c'est quand l'espèce bactérienne est absente, et puis de jaune à rouge, c'est en fonction de sa quantité. On retrouve donc 40 espèces différentes. On en a 38 qui sont référencées dans les bases de données comme faisant partie de la flore de la bouche ou la flore même de la gencive, la flore microbienne de la gencive. Donc on a vraiment réussi là à retrouver un signal de microbiome ancien. L'autre chose qui est intéressante qu'on observe, c'est que suivant les échantillons de tartre, on ne va pas avoir le même signal. Par exemple, cet échantillon ici ne va pas posséder les bactéries que j'ai mis en rouge, que j'ai surlignées en rouge là, qui sont des bactéries associées à des maladies de la gencive. En revanche, va posséder ces bactéries Streptococcus, ici, que j'ai mis en bleu, qui sont des bactéries associées à une gencive en bonne santé. Or, cet échantillon-là, c'est l'échantillon pour lequel on avait très peu de tartre. Je vous ai dit, il y a un échantillon, j'ai même hésité à le mettre dedans, le considérer comme un témoin négatif, tellement la quantité de tartre était faible. Ben, effectivement, la quantité de tartre était faible parce que cette dent était en très bonne santé, et la gencive autour était en très bonne santé. Pour les autres échantillons, pour lesquels on avait une quantité de tartre importante, on retrouve des bactéries associées aux maladies périodontales, comme Tanarella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Fretibacterium fastidiosum, etc., etc. Donc on arrive à retrouver un signal de santé ou de maladie, non pas lié à l'individu, puisque lui et lui proviennent du même individu, mais lié vraiment à l'état de la gencive dans un endroit bien particulier. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est que ce sont les mêmes espèces qui sont associées à la maladie et à la bonne santé, autrefois pendant la protohistoire et aujourd'hui. L'autre aspect qu'on a regardé, c'était la présence de Streptococcus mutans. Streptococcus mutans, c'est une bactérie associée aujourd'hui aux caries. Or, certains de ces individus avaient des caries, mais dans le tartre, on ne retrouve pas Streptococcus mutans. Donc, c'est possible que l'infection à Streptococcus mutans soit quelque chose de beaucoup plus récent, ou c'est possible que par hasard, on ne l'ait pas retrouvé, qu'on n'ait pas réussi à l'identifier avec les méthodes qu'on utilise, ou que l'ADN ait été trop dégradé pour cette bactérie en particulier. L'autre aspect qu'on peut regarder, c'est, je vous ai dit, pour ces types d'analyses, on prend l'ADN un petit peu au hasard à l'intérieur de l'échantillon. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comparer par rapport à un génome de référence, essayer de retrouver les lectures qui proviennent bien du génome de référence d'une bactérie qui nous intéresse en particulier et à quel endroit à l'intérieur de ce génome elles sont positionnées. C'est ce que j'ai fait ici pour Tanarella forsythia. Donc, chaque figure ici représente un échantillon de tartre différent. Là, vous avez le long du génome de référence, donc qui fait de 0 à 3,5 millions de paires de bases. Et ici, vous avez le nombre de lectures de fragments d'ADN qui vont aller correspondre à chacune de ces régions le long du génome. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve, on arrive à retrouver des génomes complets, donc avec des couvertures, le nombre de fois que chaque position est lue est variable selon le long du génome et puis selon les échantillons, mais on arrive quand même à retrouver des lectures dans tous les cas. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des régions du génome pour lesquelles on n'a rien du tout. Ici, par exemple, vous voyez, c'est une région du génome qui est présente dans le génome moderne, mais dans aucun des échantillons anciens, on a des lectures qui correspondent à cette région-là. C'est une région qui était sans doute absente à l'intérieur du génome des populations anciennes. Or, cette région-là correspond justement à un gène de résistance à un antibiotique. Donc, on peut supposer effectivement que la quantité d'antibiotiques dans le milieu, dans l'alimentation des personnes de l'âge du bronze et de l'âge du fer était sans doute extrêmement faible et que donc on n'avait pas sélectionné encore chez les bactéries la résistance à cet antibiotique, que cette résistance à l'antibiotique apparaît relativement récemment. On peut voir ici également, alors c'est moins visible, mais dans cette souche et dans cette souche, qu'il y a un gène là qui manque, une région qui manque, qui est présente en revanche dans les autres échantillons. Et c'est un gène, enfin c'est une région qui correspond à un gène de virulence. Donc sans doute, on avait une certaine diversité génétique parmi les souches bactériennes qui attaquaient ces individus, avec des souches qui étaient plus ou moins virulentes en fonction des individus. Pour conclure, donc, on se retrouve ici face à deux situations extrêmement différentes. La situation qu'on a eue sur les latrines anciennes pour lesquelles on a tenté de faire une analyse 16S où on voit que ça n'a pas très bien marché, et la situation qu'on a avec le tartre dentaire pour lesquelles on a fait une analyse globale, une analyse métagénomique et sur lesquelles on arrive à retrouver des informations sur le microbiome ancien. L'autre différence entre ces deux types d'échantillons, c'est que le premier échantillon, les latrines anciennes, est un échantillon qui est toujours vivant. C'est-à-dire qu'on a toujours des bactéries qui vivent à l'intérieur. Anaïs Augias a fait des analyses microscopiques de ces mélanges et elle a pu voir des vers en train de se déplacer à l'intérieur des sédiments de latrine. Donc, sans doute, ces bactéries, tout ce milieu qui vit à l'intérieur, va continuer de digérer les bactéries anciennes fécales du tube digestif et donc va faire disparaître petit à petit le signal. D'un autre côté, le tartre dentaire est un matériel qui est fossilisé et donc la situation est bloquée depuis la mort de l'individu. L'autre aspect, c'est qu'on a du mal quand même à reconstituer le contenu en gène. Quand on voit qu'une bactérie est présente, on sait qu'elle est présente, mais en revanche, quand on ne la voit pas, cela ouvre des questions. Est-ce qu'elle était réellement absente dans ces échantillons anciens? Ou est-ce qu'on n'arrive juste pas à la détecter? Ou est-ce que l'ADN a été totalement dégradé? Donc ça, c'est une question qui reste ouverte pour l'instant. Et le dernier point, qui est quand même peut-être un message d'espoir, c'est de dire qu'avec ce type d'analyse, on va pouvoir retrouver comment les bactéries ont évolué au cours du temps, évolué sur le plan de la séquence génétique, mais évolué également en termes de contenu en gène, est-ce qu'elles ont perdu ou gagné des facteurs de virulence, des facteurs de résistance à des médicaments, des facteurs de pathogénicité au cours du temps, et pouvoir ainsi avoir une idée de la diversité génétique de ces bactéries anciennes dans le passé. Voilà, j'ai énormément de gens à remercier, donc je ne vais pas le faire en direct, mais il faut savoir déjà que ce type de projet ne pourrait pas exister sans les archéologues qui sont sur les sites archéologiques et qui effectuent les fouilles, et sans les personnes qui, au laboratoire, extraient l'ADN ou participent au séquençage. Par ailleurs, donc, le premier projet sur les latrines a été mené en collaboration avec Philippe Charlier, Philippe Sansonetti, Laure Ségurel du Musée de l'Homme, et avec des discussions très intéressantes avec Anna Lochmer et Romain Laurent. Et le deuxième projet sur le tartre dentaire a été mené en particulier avec un très brillant étudiant de master, Maxime Bory, et puis avec des collègues qui s'intéressent également au fonctionnement de cette société de la civilisation de l'Oxus, en particulier Marjane Machecourt et Sonia Kroll. Merci pour votre attention.
Merci Céline. Donc on passera aux questions en fin de journée. On se réunira tous. Voilà, merci pour ces informations très, très intéressantes et qui ouvrent un champ d'exploration pour les archéologues que je suis et que nous sommes, pour une grande partie, justement sur l'étude des bactéries. On va faire en sorte qu'on puisse alimenter vos banques de données. Voilà, c'est le principe. Donc, comme vous l'avez vu, c'est Cette partie est consacrée à l'anthropologie médicale. Donc on va maintenant accueillir Philippe Frosch. Philippe qui va nous présenter, on va dire, un face-à-face avec la mort. Voilà, et sur la reconstruction faciale. Oui, oui, pas de souci.
Bonjour, merci pour cette explication sur les animaux qui vivent en nous, ça fait peur, c'est assez inquiétant. Je m'appelle Philippe Freux, je suis sculpteur et je crée des portraits posthumes dans le cadre d'enquêtes historiques, d'enquêtes scientifiques, de productions audiovisuelles ou simplement de muséographie. Ces travaux sont réalisés... Alors, pour lancer le PowerPoint... C'est vous qui le lancez, c'est moi qui dois le lancer. Le PowerPoint, d'abord la première page du PowerPoint.
Je crois que ça vous lit.
D'accord. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de collaborations étroites avec des équipes scientifiques, donc anthropologues, médecins légistes, historiens. Puisque je ne suis pas scientifique, je suis sculpteur, et c'est toujours la collaboration entre les deux champs d'application qui vont donner ces visages. Virtuel, je le précise, puisque je travaille uniquement sur ordinateur. Donc, je vais essayer de vous démontrer un paradoxe entre la partie scientifique du travail et la partie artistique. Partie scientifique qui est extrêmement précise dans son protocole, puisque on applique des méthodes dites forensiques, donc d'identification de victimes. Cette partie est assez simple à mettre en œuvre. Mais ensuite, la partie artistique va être la plus complexe, la plus subjective, puisqu'elle touche à des problèmes d'éthique, d'esthétique, de relation du visage au masque, au portrait public ou privé d'un visage. Avant de rentrer dans l'argumentation, je vous ai préparé 2 minutes de vidéo, qui est une espèce de résumé succinct, d'extrait de production réalisée dans le cadre de muséographie, d'enquêtes historiques et scientifiques. Dans mon travail, je donne toujours aux clients, donc aux musées par exemple, aux chaînes de télévision, des portraits finis, mais également des films qui expliquent au public le protocole scientifique de recréation de ces visages. Donc j'ai pris quelques extraits, si vous voulez, vous pouvez lancer la vidéo, elle dure 2 minutes, c'est pour illustrer un peu le propos. Thank you. Voilà, donc on pourrait décrire une reconstruction faciale en fait comme une dissection inversée, c'est-à-dire qu'à partir d'un crâne qui a été scanné ou qui est passé par de la photogrammétrie, on va rajouter des couches de l'intérieur vers l'extérieur afin d'obtenir un visage probable. Ensuite, calculer des images avec différents programmes informatiques qui vont nous donner un portrait. Donc, l'avantage de l'informatique, c'est qu'il est possible d'avoir des variations au niveau de l'image, donc couleur, texture de la peau, texture des cheveux, etc. Là, il s'agit d'un Cro-Magnon atteint de neurofibromatosis. Et donc, on commence toujours à partir d'un crâne sec ou crâne qui se trouve à l'intérieur d'une momie, puisqu'il est possible, au niveau informatique, donc de séparer les différentes couches. Éventuellement, comme on peut le voir sur la droite de l'image, de redécouper des crânes qui ont été mal collés pour les remettre dans une position cohérente. Puis, on va appliquer des méthodes forensiques de reconstruction faciale. Donc, par exemple, pour le nez, on va se baser sur des techniques qui ont été vérifiées, créées par des services de police scientifiques qui se basent sur la trigonométrie, sur les statistiques. Donc, on localise 4 points sur un crâne, on mesure des distances qu'on passe ensuite dans des équations qui vont nous donner une espèce de structure externe, de base qui va servir à projeter le volume des narines, le volume des cartilages. Il s'agit donc de méthodes anthropométriques. Donc là, vous pouvez voir quelques exemples de nez qui ont été reconstruits, mais on observe également l'os. Les petits détails, il s'agit d'un travail d'enquête sur les traces laissées par les muscles sur l'os, sur les marques d'insertion et d'origine. Il s'agit quelquefois de reconstituer, de recoller et de reconstruire des crânes de façon virtuelle. Il est possible également d'employer des méthodes qui ont été créées. Donc la méthode basée sur les équations est une méthode qui a été créée à la fin aux alentours des années 2010, et nous employons également aussi des méthodes créées au début du XXe siècle, qui consistent très simplement à reproduire vers l'avant, à projeter vers l'avant la forme vide, négative, en creux que laisse l'os nasal lorsque le crâne est vu de profil. Je vous montrerai plus tard sur d'autres images. Donc il s'agit d'une méthode anthropométrique. Vous avez peut-être vu ces images dans la presse où on place des petits cylindres sur des lieux très précis, sur une cartographie très précise du crâne. Ces petits cylindres nous donnent la position probable de la couche externe de la peau. Et ces petits cylindres ont tous une taille différente qui correspond à une liste de points qui a été établi par des équipes de scientifiques, donc anthropologues, qui, en mesurant soit sur des cadavres à l'aide de petites aiguilles, soit au travers d'échographies ou de scanners, les couches de tissu mou, donc la graisse, les tendons, les muscles, la chair, etc. Donc, ces tables sont caractérisables pour chaque sexe, pour l'origine ethnique, pour la constitution de l'individu, pour son âge, et pour chaque élément donné, il va falloir choisir entre une constitution très maigre, très obèse ou médiane. Donc là, il s'agit vraiment du travail des scientifiques qui vont me fournir un compte-rendu sur l'état de l'individu, à savoir s'il était obèse ou très maigre. On emploie également, en combinaison avec cette méthode anthropométrique, une méthode anatomique, qui consiste à rajouter des muscles, à superposer les muscles de l'intérieur vers l'extérieur afin de vérifier la fluidité des formes sur le crâne. Donc là, vous pouvez voir quelques écorchés, dont le Cro-Magnon, deuxième image à partir de la gauche. Cro-Magnon, vous avez vu tout à l'heure. À droite, c'est Henri IV. À droite, l'extrême droite, c'est Simon Bolivar. Agnès Sorel à gauche. Encore une fois, Agnès Sorel, donc avec la superposition de la méthode anthropométrique et de la méthode anatomique, en transparence sur les couches de la peau. Alors, le paradoxe de l'informatique veut que tous les contrôles et tous les paramètres sont extrêmement précis, si précis qu'il est possible de paramétrer, par exemple, la courbe, la densité et l'épaisseur des cils en se basant sur des publications scientifiques. Donc oui, il y a des équipes de science qui travaillent sur ce thème pour des applications de cosmétiques. Donc, dans ce cadre-là, il s'agissait d'applications qui ensuite dérivent sur l'industrie qui produit des mascaras. Et donc, idem pour les cheveux, on dispose de toutes les tailles, de toutes les statistiques en fonction de l'origine ethnique, de la couleur des cheveux, etc. Et il est possible de paramétrer donc, les cils à 50 microns d'épaisseur. Donc on utilise vraiment une précision à outrance, et c'est vraiment très paradoxal. Donc pour les cheveux, c'est pareil, tous les cils sont plantés à la main. Donc comment passe-t-on de l'image de gauche à l'image de droite, qui a été calculée par l'ordinateur? Donc il a fallu placer une caméra, il a fallu placer de l'éclairage, il a fallu définir certains paramètres. Par exemple, au niveau de la peau, on paramètre ce qu'on appelle le subsurface scattering, c'est-à-dire la diffusion sous-cutanée de la lumière. Cet aspect de la peau qui devient rougeâtre lorsque la lumière en fait, pénètre la peau et ressort avec un indice de réfraction donné. Donc vous pouvez voir au centre de l'image la quantité de paramètres qu'il est nécessaire de définir afin de faire comprendre à l'ordinateur ce que l'on désire obtenir. Il va falloir sculpter à la main des polygones. Donc, pour sculpter à la main des polygones avec un toucher similaire à la pâte de modelage et à la glaise, il va falloir travailler avec de très grandes quantités, donc de 30 à 60 ou 70 millions de polygones, afin de pouvoir, par rapport à l'iconographie, donc là, il s'agit du Cro-Magnon atteint de neurofibromatose, il a fallu se documenter, évidemment, en collaboration avec Philippe Charlier, par rapport à des images de cas de neurofibromatose et de les répliquer sur le visage du Cro-Magnon à partir des traces qui avaient été laissées sur l'os. Ensuite, on peut également utiliser des cartographies de peau polarisée afin de retransmettre les tout petits détails de surface pour que la lumière, au niveau de l'incidence et de la réfraction, donne vraiment un aspect réaliste aux images. Ces cartographies qui font 16 000 par 16 000 pixels sont ensuite appliquées comme un masque sur la sculpture. Puis on illumine le tout avec une illumination globale, c'est-à-dire des images en HDRI. C'est un peu technique, mais bon, selon les techniques d'illumination d'images de synthèse très classiques au cinéma dans les effets spéciaux. En paramétrant, effectivement, pour les personnes qui aiment la photographie et qui se souviennent de leur caméra, il faut paramétrer une distance focale, une vitesse d'obturation, des paramètres d'ISO ou d'ASA, qui est la sensibilité du support qui permettra de calculer les images afin d'obtenir plus ou moins de grains, paramétrer l'éclairage. Donc vous voyez le visage de Jacques de Vitry, qui était un évêque du XIIIe siècle, avec sa mitre et donc le crâne, avec les parties rajoutées en jaune et vert, qui étaient absentes. Dans le cas du travail sur Jacques de Vitry, il a fallu restaurer la mitre, puisque la question s'était posée, évidemment, ça n'avait aucun sens de présenter le visage de Jacques de Vitry avec la mitre totalement dégradée. Donc il a fallu séparer toutes les couches, parchemin, dorure, pigments, etc., qui sont séparés virtuellement, retravaillés à la main, et ensuite recalculés par l'ordinateur, ce qui nous permet d'avoir une image assez fiable de ce que pouvait être la mitre à l'époque. Donc le paradoxe de la précision informatique, donc la froideur de ces images de synthèse, veut que pour les rendre empathiques, c'est-à-dire afin qu'on puisse les accepter comme d'éventuelles photos prises sur le vif, il est nécessaire de rajouter de l'analogique dans cet excès de numérique qui est trop précis, trop froid, trop pointu. Donc il faut rajouter du grain, du bruit, du flouté, de l'aberration chromatique, de la profondeur de champ afin de les rendre un peu plus réels. Un petit aparté sur la problématique du visage et sa représentation, puisque créer un portrait, ça signifie faire un choix. Il va falloir faire un choix de cadrage, faire un choix artistique, mais comment choisir, comment déterminer la photo qui va résumer une vie sur un seul cliché? Quel est le vrai visage de Jim Morrison? Est-ce que c'est la vue type mugshot, des photographies d'identification type Bertillon, face profil? S'agit-il, son vrai visage, s'agit-il plutôt d'une photo publicitaire ou d'une photo prise sur le vif? Donc il y a vraiment cette problématique du visage. Le visage, en fait, est protéiforme, il est en constant changement, et il est caractérisé par ce qu'on pourrait appeler le perpetuum mobile, c'est-à-dire que notre visage, lorsqu'il est fixé sur une photo, sur une instantanée, ne représente qu'un masque. Comment définir le visage d'un personnage historique? Quel visage résumerait Winston Churchill s'il fallait faire ou recréer son visage à partir d'un masque? Donc ça pose des problématiques d'éthique. Comment faut-il le montrer? Dans quel éclairage et avec quelle expression? Puisque tous ces visages représentent Winston Churchill, mais on se rend bien compte que le tout, c'est-à-dire le tout séparé, n'est pas la somme de tous les éléments séparés, pardon, c'est-à-dire que toute la précision informatique des cils, de la peau, des marqueurs anthropométriques et anthropologiques n'arrive pas à résumer un visage. Donc il va bien falloir faire des essais artistiques pour finalement tomber sur un visage qui représente ce qu'on pourrait appeler le moi profond, la personnalité du sujet. Alors, juste un petit aparté artistique, certains artistes ont essayé d'y répondre, donc que ce soit Bacon, qui lui peignait plutôt des têtes que des visages, Man Ray ou Rodchenko, qui ont essayé de retransmettre la personnalité et le visage d'un individu en prenant plusieurs clichés et en les mélangeant, afin de rassembler plusieurs masques, puisque le visage que nous présentons à autrui n'est fait dans la succession du temps que de différents masques qui se superposent les uns aux autres. Donc construire un visage en 3D afin d'en tirer un portrait repose donc sur le choix d'une expression faciale. Donc c'est un problème d'éthique, puisque nous ne travaillons pas sur des personnages qui vont être destinés à des jeux vidéo où ce sont des personnes, des crânes qui ont appartenu à des personnes qui ont souffert et qui sont mortes, donc il y a un problème d'éthique. Dans le cadre du travail réalisé sur ces peuples premiers du Canada, dont vous pouvez voir une femme d'il y a moins 4000 ans, visage reconstitué à partir d'un crâne, qui a été trouvé sur l'ouest canadien, là, la consigne du conservateur du musée, qui rapportait la volonté du chef du peuple premier, donc des tribus toujours existantes, la seule consigne c'était « they have to be proud ». Donc la problématique est de passer d'une description et d'une volonté du genre « they have to be proud » à la création d'un visage. Donc c'est pas si facile que ça. Donc il va falloir choisir un cadrage, un éclairage et un style esthétique. C'est le couple réuni. Alors le titre du diaporama s'appelait « The Pixel Wars », puisque nous sommes confrontés surtout lors du calcul et du rendu des images, puisque nous ne fabriquons pas que des images fixes, nous fabriquons également des séquences vidéo, nous nous trouvons dans une période charnière. La problématique veut que les chaînes de télévision et le public en général attendent de plus en plus de détails et de plus en plus de pixels. Nous nous trouvons actuellement entre ce qu'on appelle le Full HD et la 4K, et vous pouvez voir que la 4K représente déjà 4 fois plus d'informations que la Full HD. Et on commence à voir, surtout pour ces périodes de fête, des publicités pour des téléviseurs qui sont capables de projeter de la 8K. Donc 8K, vous pouvez voir que c'est une image qui fait 8000 pixels de large sur 4600 pixels de haut. Alors quelle est la problématique? Elle est très simple. 10 secondes de film en Full HD, c'est-à-dire la télévision que vous avez peut-être chez vous, pour faire 10 secondes de film, donc il faut 10 fois 25 images par seconde, donc ça représente 250 images. Un ordinateur met 45 minutes à calculer une image. Les images que vous avez vues sur l'écran ont été calculées, pour vous donner un ordre de grandeur, par un Mac Pro de 12 noyaux de calcul et 32 GB de RAM. Donc c'est une machine assez puissante. Et elle met 45 minutes à calculer une image, une frame. Donc il en faut 25 pour faire une seconde de film. Donc en HD, on en est à 8 jours de calcul pour 10 secondes de film. Si on passe en 4K, on va passer à 10 fois 60 images par seconde et on se retrouve avec 75 jours de calcul pour obtenir 10 secondes de film. Évidemment, vous comprenez le problème très rapidement. Lorsqu'on passe en 8K, on va se retrouver avec 300 jours de calcul puisque les images vont mettre 12 heures, il va en falloir 600 pour faire 10 secondes de film, donc 75 jours de calcul. Alors, bien sûr, tout ça, c'est impossible à calculer sur un ordinateur personnel, ce sont des images qui sont très très lourdes. Il faut passer par ce qu'on appelle des fermes de rendu, ce sont des entreprises qui possèdent des milliers d'ordinateurs, qui évidemment dégagent une quantité énorme de chaleur, donc qui ont une empreinte carbone très lourde. Ça pose un problème ou non, puisque certains scientifiques pensent déjà que heating houses with nerve power, il va être possible de chauffer des bâtiments à partir de toute la chaleur qui va dériver de la puissance des ordinateurs. Voici donc pour conclure mon intervention. Merci.
Merci beaucoup, Philippe, pour cette description. J'ai pu voir que les canons de la beauté ont un peu évolué entre Cro-Magnon et l'époque moderne. Et effectivement, ça ouvre là aussi beaucoup de perspectives et beaucoup d'intérêts. Donc je crois que l'avenir, c'est les fermes. Tout à fait. Je vous rappelle juste qu'on va faire une pause de quelques minutes. Donc on va reprendre à 15h50 avec Philippe Charlier, Christophe Moulera, Sylvain Orduro et Yves Bellman. Je vous rappelle juste que le programme vous donne accès aux salles du musée et que nous aurons la discussion, je vous dis, en fin de journée. Voilà. À tout à l'heure, donc.